Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour, il est partout, au cœur de notre vie quotidienne, le big data, cette énorme masse de données informatiques qui circulent sur Internet. Chaque jour dans le monde, des milliards d'octets, l'unité de mesure des données, sont captées par les entreprises quand on surfe sur le web, quand on se déplace en voiture ou en avion. Une fois traitées avec des algorithmes, ces mégadonnées sont des mines de renseignements pour ces entreprises. Par exemple, grâce à ces données, Netflix a analysé les habitudes de ses abonnés et produit des séries sur mesure comme House of Cards. Exploiter cette manne est un enjeu incontournable pour la France. Big Data, l'or noir de demain. Grand reportage, signé Ariane Gaffuré.
Bienvenue chez Devotim. Es-tu d'accord pour parler avec moi?
Oui.
Je m'appelle D3DO et toi, quel est ton nom?
Ariane.
Je ne te retrouve pas dans ma liste de rendez-vous. Désolée, merci de demander à l'hôtesse d'accueil de t'aider.
Bienvenue chez Devotim, l'entreprise de demain spécialisée dans l'intelligence artificielle. Son fondateur, Godefroy de Bensman, est aussi à la tête du syndicat Syntech Numérique. Il représente les entreprises françaises de la tech.
Comme on a tous un smartphone dans la poche et que maintenant de plus en plus notre vie devient un peu numérique, on prend nos billets sur Internet, nos billets de train, on prend nos hôtels, on réserve une nounou, on fait nos achats divers. Donc tout ça, ça laisse des traces qui créent des données. Et puis par ailleurs, on a des capacités de traitement, des ordinateurs, si vous voulez, qui sont de plus en plus puissants. Donc on peut, dans ces données, les traiter pour en tirer des choses qui sont intéressantes et qui permettent de dire que les jours où la météo est comme ci ou comme ça, la consommation de certains produits dans certaines zones se fait plus au mieux, et donc ça permet aux entreprises de donner des services différents. Tout ça vient de l'analyse des données. Et pour faire l'analyse des données, il en faut beaucoup et il faut les traiter vite. Alors, on peut en avoir un peu peur, ça c'est un sujet, et c'est pour ça que la réglementation européenne sur la protection des données personnelles est importante. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, si on le fait, c'est que c'est quand même des usages qui nous vont bien. Donc il faut les maîtriser.
Troisième étage.
Bonjour.
Bonjour.
Quelqu'un?
Oui,
ah oui, c'est ici.
La maîtrise de ces données, c'est bien l'enjeu pour les entreprises françaises, surtout les PME. 40% d'entre elles seulement exploitent leurs données internes. En revanche, certaines sont visionnaires, comme Dataiku à Paris.
On vous reconnaît facilement en tout cas, comme ça avec votre micro, c'est très clair.
Sympa les locaux de Dataiku.
Est-ce que vous voulez déjà prendre quelque chose?
Pas un café.
À la tête de Dataiku, Florian Duetto, 37 ans. Ce matheux de l'école normale supérieure a roulé sa bosse.
Alors moi, je suis tombé dans la start-up quand j'étais tout petit. À 20 ans, j'ai commencé à travailler dans des start-up qui travaillaient sur des données. Au début, je travaillais dans des start-up qui crawlaient le web pour faire des moteurs de recherche. Puis ensuite, dans des start-up et des entreprises qui analysaient les données digitales, les données sociales, les données Facebook, etc. Et du coup, j'ai tout de suite pris le virus de ce domaine, en fait, le domaine dans lequel on croise les données, on essaie de comprendre, on essaie de faire des prédictions, on essaie de créer des applications très rapidement. Et j'ai du coup assez vite compris qu'en fait, il y avait un vrai problème pour les entreprises pour finalement arriver au même niveau d'excellence que Google et Facebook dans le domaine de la création de valeur grâce aux données, sans avoir les mêmes moyens.
Qu'est-ce que font Google et Facebook de mieux que les autres?
C'est parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent que les autres et aussi finalement une culture d'entreprise différente où tous les produits qu'ils fabriquent, en fait, utilisent la donnée. On dit « data-driven » en anglais et parfois c'est assez dur de traduire ça en français directement. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pense une fonction produit, à chaque fois qu'on pense un nouveau produit, on va penser au fait que ce produit va capturer de la donnée et va s'optimiser en continu en utilisant cette donnée-là. Un exemple qui est assez concret, c'est celui des voitures d'Elon Musk, les fameuses Tesla, qui en fait, en continu, ont capturé de la donnée sur la conduite et les comportements de conduite, qui permettent à Tesla maintenant de commencer à fabriquer en fait des voitures autonomes. Mais en ayant en fait déjà des flottes entières de voitures avec des comportements urbains et des comportements de route réels qui leur permettent en fait de construire ces produits-là.
Fort de ces expériences, Florian Duetto a fondé Dataiku.
Dataiku, c'est un logiciel qui permet aux entreprises d'être plus efficaces sur leurs projets donnés et donc de créer très rapidement de la valeur et des applications qui tirent parti en fait, des déluges de données qu'elles ont reçues dans les dernières années. On va avoir des clients qui sont très différents. Tous les secteurs d'activité sont impactés par ces évolutions. On va avoir des clients qui vont être dans le domaine du commerce en ligne, par exemple. Pour eux, l'évolution du produit, c'est comprendre ce que font leurs utilisateurs pour personnaliser l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si je suis un e-commerçant maintenant, c'est quasiment impossible pour moi que tout le monde reçoit les mêmes offres. Ça n'a presque plus aucun sens. Les gens, maintenant, ils ont un temps d'attention limité. En plus, maintenant, tout le monde est habitué au e-commerce. Et il n'y a pas toujours assez de réseaux dans le métro pour pouvoir scroller jusqu'en bas des applications. Donc, il faut que les 10 premiers produits qui soient affichés soient les bons. Et ça, c'est critique dans ma stratégie d'e-commerçant. Et donc, il faut être capable de fabriquer toute l'intelligence qui fait que je sais pour chaque utilisateur quels sont les 10 produits que je veux afficher en premier pendant les 10 premières secondes qui passent sur mon site.
Qu'est-ce que ça demande comme technicité, comme talent pour pouvoir être capable de comprendre ces données, de les analyser, d'en faire quelque chose ?
Alors c'est justement là le problème et là où il y a un gap. Il y a déjà des sujets d'infrastructure technologique. Il faut être capable de les stocker, il faut être capable de faire des calculs sur ces données-là. Ça, c'est des choses sur lesquelles beaucoup d'entreprises se sont équipées il y a quelques années. Et ensuite, en fait, après, il faut des talents. Il y a des gens qui sont capables à la fois d'appliquer des algorithmes ou des calculs sur les données à grande échelle, de comprendre ce qui se passe, mais aussi d'avoir des gens qui sont capables de faire le lien entre les problèmes métiers, entre les produits, entre les utilisateurs et les données. Donc des gens un peu bicéphales, des gens un peu schizophrènes. Et en fait, c'est assez dur pour les entreprises en fait, d'arriver à créer ce pont entre l'utilisateur, le produit et les données. Et du coup, en termes d'organisation, il y a besoin d'avoir des plateformes et des logiciels qui aident les entreprises à se structurer. Et donc, c'est ce que fait notre logiciel.
Les 120 salariés sont jeunes. Ici, on ne porte pas de cravate et on se déplace parfois en skateboard, ordinateur portable sous le bras. Yanis Gazouani, ingénieur informatique, concrètement, comment le logiciel Dataiku fonctionne ?
Je vais vous montrer un petit projet de démo dans le secteur de la télécommunication. Et l'idée, ça va être d'aller prédire quels sont les clients qui sont susceptibles de se désabonner à la fin du mois.
Et éventuellement essayer de le récupérer avant qu'il parte.
Tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'aller lui envoyer un message ou une promotion pour qu'il ne se désabonne pas. Alors, du coup, je vais vous faire un petit tour de la plateforme Dataiku DSS. Donc, c'est une plateforme de data science qui permet de traiter les données. On récupère des données telles que les données du service client et d'autres données du service marketing, etc. Et l'idée, ça va être dans un premier temps de nettoyer la donnée, c'est-à-dire qu'il y a des informations manquantes ou des informations incomplètes ou imprécises. Et donc on va d'abord nettoyer la donnée, ensuite rassembler toutes les sources de données différentes au sein d'une même table. Par la suite, on va créer un modèle de machine learning qui nous permet de définir si oui ou non, avec une certaine probabilité, le client va se désabonner.
C'est assez clair, il y a un parcours avec des icônes bleues, jaunes et vertes.
Les bases de données ont souvent comme icônes des petits animaux. Et alors, par exemple, si on tape Hadoop,
il y a même le barissement de l'éléphant.
Exactement. Voilà, ça c'est pour les petites easter eggs. En fait, nous on fournit cette solution au client qui, à partir de notre logiciel, créer ses propres programmes qui soient adaptés à n'importe quel cas d'usage. On pourrait très bien traiter d'autres cas comme l'optimisation de procédés industriels ou de la détection de fraude dans la banque.
Soyez les bienvenus. Je suis Claire, d'Informatica. Je suis là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre visite au salon Big Data et vous proposer de jouer pour remporter des cadeaux. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?
Le forum Big Data à Paris. 15 000 professionnels dans une immense salle de congrès. Dans cette allée encombrée, le stand d'Allo Media, une start-up française créée il y a un an. Son invention, exploiter les données délivrées par les clients lors d'échanges téléphoniques. Frédéric Daniel, fondateur.
Aujourd'hui, on a un volume de contacts entre les marques et les clients qui est colossal au téléphone. Il y a encore à peu près 2 milliards d'appels en France, 3 milliards d'appels. Ça reste le canal le plus naturel pour un client. Le problème, c'est que quand vous appelez, vous racontez votre vie à la marque, et tout ça, c'est une mine d'or pour les marques, et malheureusement, c'est perdu. Nous, on arrive avec une technologie qui va faciliter la relation entre la marque, les conseillers et les clients, et on va, pour ça, convertir en temps réel l'intégralité de la conversation téléphonique en données clients pour que la marque arrive à mieux les servir. Et donc, on a une petite démo qui est très simple. On va aller ensemble sur un site internet, comme si vous vouliez partir en voyage. Alors, on y va.
Allô Voyage, bonjour. Romain, votre service.
Oui, alors je voudrais partir en Espagne, à Barcelone. On voudrait faire un peu d'activité sportive au bord de la mer, de la plongée.
Ok, je vous propose tout ça avec du snorkeling et puis des activités nautiques. Merci, au revoir monsieur.
Effectivement, sur l'écran, il y a toutes les informations qui ont été données au téléphone.
Oui, et vous voyez tout ce que le client a raconté. Tout ça a été rentré automatiquement dans le système sous la forme de données structurées. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas du big data. Le big data, c'est des masses de données sur lesquelles on a besoin de rajouter des outils d'analyse. Là, la donnée, elle est déjà structurée et rangée et l'entreprise peut immédiatement s'en servir.
Mais avec le big data, les entreprises savent tout de nous, ce qui fait craindre un monde à la Big Brother. Pour répondre aux inquiétudes, l'Europe a mis en place un règlement de protection des données personnelles, le RGPD. Les entreprises doivent se mettre en conformité sous peine de lourdes sanctions, 4% de leur chiffre d'affaires. Godefroy de Bensman, président de Syntec Numérique.
La réglementation européenne, c'est 4 ans de travail des 27, des citoyens qui ont une vie numérique. Et on se rend bien compte que ces données, on ne peut pas les laisser à l'abandon, à la merci de gens qui pourraient en faire des usages qu'on ne veut pas en faire. Vous prenez des billets à la SNCF, au bout d'un ou deux ou 10 ans, eh bien, on a votre profil de voyage et au fond, vous voulez bien que la SNCF l'utilise, mais vous n'êtes pas sûr que vous avez envie que tous les gens de la Terre puissent y avoir accès. En tous les cas, vous voulez pouvoir dire oui ou non. Bon, ben, vous voudriez avoir un droit à l'oubli. Le RGPD, c'est ça. Et c'est aussi le fait que les entreprises doivent recenser toutes les données qu'elles ont. 2, c'est dire comment elles sont utilisées, ces données. Et 3, c'est prévenir si, par hasard, elles ont des fuites. Il y a des fuites très connues. Hein. Facebook vient d'avoir une fuite, mais il y a aussi des fuites qui sont du hacking. Il y a eu les opérateurs télécoms, il y a eu Uber a été hacké il y a quelque temps. Donc aujourd'hui, le RGPD vous oblige à le déclarer dans un délai extrêmement court, quelques heures. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes susceptible d'être attaqué par l'organisme de contrôle, le gendarme, qui est en France, c'est la CNIL. Dans chaque pays, il y en a un équivalent. Ou vous pouvez être attaqué par un collectif d'utilisateurs qui disent bah, moi, dans cet hôpital, je considère que mes données ont été volées ou elles sont mal protégées. Ou sur Amazon, je considère que mes données, je les ai retrouvées ailleurs, je suis étonné. Bon, voilà. Donc c'est bien les moyens de donner confiance aux citoyens européens que bien, toutes ces données-là sont correctement gérées.
Un enjeu de sécurité d'autant plus important que l'Internet des objets va être de plus en plus omniprésent dans nos vies. 11 milliards sont déjà utilisés à travers le monde et ce n'est pas fini. Selon une étude du cabinet Gartner, un foyer moyen sera équipé d'ici 4 ans de près de 500 objets connectés.
Les objets connectés remontent des informations phénoménales. Aujourd'hui, vous avez des capteurs un peu partout sur une voiture, sur un avion, sur un train, sur une éolienne, qui vous permettent d'avoir de l'information en permanence sur le taux d'usure, sur des ralentissements imperceptibles à l'œil, mais que vous êtes capable de capter. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir intervenir avant que la machine s'arrête, changer la pièce en quelques minutes ou en tous les cas beaucoup moins coûteusement pour l'intervention ou même les conséquences d'un arrêt, parce que vous allez le faire à un moment où ça gêne moins. Dans la santé, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même bien décrit tous les bénéfices qu'on a de traiter massivement les données qui sont issues de la santé, ou issues des feuilles de remboursement, par exemple. Si vous étiez capable de les traiter, aujourd'hui, on ne sait pas très bien le faire, mais ça va arriver très vite. On va peut-être appréhender beaucoup mieux la transmission des épidémies, de grippe ou d'autres choses. Mais dans la ville du futur, et c'est-à-dire de ce soir, c'est dans quelques heures, la gestion des éclairages, la consommation de l'eau, le chauffage, les circuits de livraison, les circuits de ramassage des ordures, tout ça, c'est des sujets sur lesquels, avec l'intelligence artificielle nourrie de la donnée, on va pouvoir prendre des meilleures décisions et, je dirais, faire moins de gaspillage, par exemple.
L'idée, c'est d'accompagner pour moi les techniques.
D'accord.
Et comme on fait des solutions derrière, un peu sur mesure, j'ai envie de dire, on n'a pas de...
Ce travail d'exploitation intelligente des données nécessite des talents difficiles à trouver en France. Les experts parlent de 200 000 emplois à pourvoir d'ici 4 ans. Pourtant, le métier est bien rétribué. Un ingénieur informatique, Bac+5 ou Bac+4, démarre sa carrière à 40 000 euros annuels et peut doubler ce salaire rapidement. Florent Georges, présent au forum Big Data, dirige Aquila Consulting, spécialisé dans l'analyse de données.
Alors, on peut parler de pénurie, en effet. Moi, je le constate, bien entendu, puisqu'au quotidien, on a un certain nombre de clients qui recherchent des ingénieurs informatiques ou des data scientists avec des compétences bien spécifiques. On ne trouve pas sur le marché aujourd'hui ces compétences-là, je dirais, de manière agile et rapide. La demande est bien plus forte que l'offre. Donc, il y a un nombre conséquent d'appels d'offres qui sont émis par mes clients auxquels on ne peut répondre faute d'ingénieurs. Donc on a énormément de CDI qui ne sont pas pourvus. Et puis forcément, nous, on est aussi obligé de se tourner vers d'autres canaux pour pouvoir trouver ces compétences-là. Donc on va aussi chercher quelques ingénieurs qui peuvent venir de pays étrangers. Ce sont des gens extrêmement compétents aussi. Hein.
Informaticiens de quel pays ?
Nous, on a des personnes qui viennent de Colombie, on a des personnes qui viennent de Roumanie, on a des personnes qui viennent du pays du Maghreb.
De l'Inde, paraît-il qu'ils sont très très forts.
Alors en effet, les Indiens sont très très forts.
Parce que certaines entreprises sous-traitent.
Alors il existe aussi ce qu'on appelle de l'offshore, hein, c'est-à-dire faire travailler des ingénieurs étrangers qui restent dans leur pays. C'est-à-dire que l'Inde est un grand pays d'offshoreisation, comme on dit, c'est un mot un peu barbare. On retrouve des ingénieurs informatiques qui sont en Inde et qui travaillent pour le compte de grandes sociétés françaises à distance, en Inde directement. Le gros bénéfice pour ces entreprises-là, c'est le coût, hein, puisque aujourd'hui, le rapport est pratiquement de 1 à 5 en termes de coûts financiers pour le même type de compétences. Il y a aussi ce qu'on appelle le nearshore, donc c'est par exemple d'avoir une entreprise parisienne qui va faire appel à des personnes qui vont être à Nantes ou en province, puisque les salaires sont un petit peu moindres. Du coup, forcément, le coût d'exploitation va être aussi plus avantageux pour les entreprises.
Face à la demande en informaticien, des écoles de la deuxième chance ont vu le jour, comme l'école 42 ou les cours Simplon. Microsoft France vient aussi d'ouvrir une école d'intelligence artificielle près de Paris. Julien Den, 22 ans, cheveux longs, y étudie.
Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle donc Seeing AI, qui est donc un outil de reconnaissance visuelle. Par exemple, on peut reconnaître les personnes. Donc là, si je vous prends en photo.
Ok, vas-y. One face near center, 3 feet away. Processing. 38-year-old woman with brown hair wearing glasses looking happy. Ok, alors 38 ans, femme avec des cheveux bruns, qui porte des lunettes et qui a l'air heureuse.
On va travailler avec ces technologies sûrement. Moi, l'intelligence artificielle, je m'intéresse de base parce que je m'intéresse à peu près à tout ce qui est autour de l'informatique. Je suis tombé un peu par hasard sur cette formation et je me dis pourquoi pas. Et puis maintenant, là, je suis très surpris parce que hein, c'est un truc qui a l'air génial. Et les cours, tout ça, là, ça faisait un moment que je faisais plus rien et là, je suis vraiment en train de reprendre de l'intérêt pour ce que je fais. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre là-dessus ?
Couleurs.
Ah, les couleurs, oui.
Alors, je suis Louise Joly, je suis la directrice de l'école d'intelligence artificielle Microsoft. On enseigne principalement le langage. Par exemple, là, on apprend du Python. Le Python, c'est un langage de programmation qui est reconnu comme étant l'un des langages les plus simples. Voilà. Et qui pourtant permet de faire de grandes choses. On apprend aussi des mathématiques. Et puis, on apprend surtout tous les outils, toutes les plateformes qui ont été créées par Microsoft et par d'autres, de simplification de l'intelligence artificielle. Finalement, aujourd'hui, on peut faire de l'intelligence artificielle en utilisant des algorithmes, mais sans entrer dans le vif du code. Et puis, on est surtout allé tester les soft skills, qui pour nous sont extrêmement importantes sur la montée en compétences. Il faut savoir également apprendre à apprendre, être autonome dans son apprentissage. La technologie avance très très vite aujourd'hui et si on ne les forme pas aujourd'hui à s'auto-former, eh bien on prend le risque dans 2 ou 3 ans d'avoir des connaissances obsolètes.
Consciente des enjeux, la France va investir 1,5 milliard d'euros dans l'intelligence artificielle avec un souci, l'éthique. Godefroy de Bensman.
Il faut que dorénavant, les gens qui vont produire des services sur Internet réfléchissent en se disant comment mon client, mon patient travaille avec moi en se disant j'émets un degré de confiance qui fait qu'ils ont envie de travailler plus avec moi qu'avec un autre. La différence va se faire par ce côté qui va bien au-delà de ce que la législation nous amène à faire avec le RGPD. Je suis persuadé qu'il y a un nouveau métier qui va émerger, qui va être comment on donne confiance. Et évidemment, à travers un parcours utilisateur extrêmement fluide, où tout est écrit, mais où on comprend ce que le site est capable de faire pour nous et ce qu'il ne fait pas, et comment il prend en compte nos intérêts, au-delà de son intérêt à lui de faire une marge sur les produits qu'il nous vend. Sinon, il va y avoir de la défiance, et ce n'est pas bon pour tous les gens qui aujourd'hui cherchent à produire des services.
Big Data, l'or noir de demain, un grand reportage d'Ariane Gaffuri, réalisation Eva Mouchinski.